la force de défense aérienne de la République islamique envisage de produire des équipements militaires sophistiqués à longue portée pour faire face aux menaces potentielles de l'ennemi. Deux personnes ont été tuées dans un échange de coups de feu mercredi devant le consulat américain Jeddah en Arabie Saoudite. Et en France, 150 personnes ont été arrêtées par la police lors de violentes manifestations contre la mort de Naël, tué par un tir policier à Nanterre. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le commandant des forces de défense aérienne de l'armée iranienne a annoncé des plans pour que son unité fabrique des équipements militaires sophistiqués à longue portée pour faire face aux menaces potentielles de l'ennemi. Parallèlement aux menaces potentielles et aux éventuels défis, la production d'équipements avancés de radars, de missiles et de drones à longue portée est définitivement à l'ordre du jour de la force de défense aérienne de l'armée iranienne cette année, a déclaré mercredi 28 juin le général de brigade Alireza Sabahi Fard. Le contrôle total actuel des frontières aériennes du pays manifeste l'observation et la surveillance minutieuse effectuée par des ingénieurs et des spécialistes dans des milliers de points de défense aérienne à travers le pays, a-t-il dit. Les efforts 24 heures sur 24 des gardes-frontières aériens iraniens garantissent la paix pour les citoyens, a ajouté le général de brigade Sabahi Fard. Il a également déclaré que la force de défense aérienne de l'armée est bien développée aujourd'hui. Et cette croissance et cette puissance ont été rendues possibles grâce à la volonté et aux efforts de la jeunesse dans divers domaines des sciences de la défense aérienne. Ces dernières années, les experts et techniciens militaires iraniens ont fait des progrès substantiels dans la fabrication d'une large gamme d'équipements indigènes, rendant les forces armées autosuffisantes. L'Iran a intenté une action en justice contre le gouvernement canadien devant la Cour internationale de justice, CIJ, en tant que principal pilier judiciaire des Nations unies en raison de la violation de l'immunité internationale du gouvernement iranien. Le dossier de l'Iran devant le tribunal exige également une compensation de la part du Canada. Il indique d'ailleurs que le Canada a suivi ce mauvais processus malgré les protestations successives de la République islamique. Mais l'Iran a une fois de plus montré sa soumission à sa position de principe dans le règlement pacifique des différends et son engagement envers la primauté du droit dans les relations entre les pays, exprimant d'ailleurs l'espoir que le Canada reverrait son approche politique et qu'il cesserait de violer ses engagements. Téhéran a déclaré que le Canada avait violé le droit international par des décisions illégales de remettre des actifs iraniens aux victimes de diverses attaques que le Canada impute à des groupes soutenus par l'Iran. La déclaration du gouvernement iranien a également rejeté les fréquentes accusations du Canada selon lesquelles l'Iran soutient le terrorisme et viole les droits humains. La déclaration de la République islamique indique que le Canada a systématiquement violé les droits de l'homme, qu'il a soutenu les politiques étrangères dominatrices et interventionnistes des États-Unis et qu'il a agi en tant que complice dans les crimes inhumains perpétrés par le régime israélien en Palestine et en Asie du Sud-Ouest. L'appareil diplomatique de la République islamique d'Iran a condamné avec véhémence le nouveau feu vert donné par la Suède à un acte de profanation du Saint-Coran. Dans un cas répété et autorisé par l'État suédois du sacrilège contre le livre sacré des musulmans, deux hommes ont brûlé une copie du livre sacré des musulmans devant la mosquée centrale de Stockholm dans un rassemblement autorisé par la police suédoise ce mercredi 28 juin, au premier jour de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. La fête du sacrifice marque la fin du pèlerinage annuel du Hajj, auquel participent des millions de musulmans du monde entier. S'exprimant jeudi 29 juin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a dénoncé dans les termes les plus forts l'autorisation du gouvernement suédois de répéter un tel acte de profanation par des islamophobes basés en Suède. La Suède a ouvert la voie à la répétition des actes offensifs contre les saintetés divines, en particulier pendant les cérémonies musulmanes et la participation de millions de personnes au rassemblement international du Hajj. Et cela est permis comme un acte inacceptable et provocateur. Kanani a souligné, les actes de profanation des livres saints sont un exemple de la tendance à inciter à la haine et à confronter les valeurs originelles des droits de l'homme. Enfin, il a conseillé aux responsables suédois d'empêcher à l'avenir la répétition d'actes insultants contre les saintetés des autres pays et de prêter une attention particulière aux principes de responsabilité dans ce domaine. Deux personnes, dont l'assaillant, ont été tuées dans un échange de coups de feu mercredi 28 juin devant le consulat américain Jeddah en Arabie Saoudite, ont annoncé les autorités du royaume. Un homme muni d'une arme à feu s'est arrêté près du bâtiment du consulat à Jeddah, suscitant un échange de tirs avec des responsables de la sécurité, a rapporté mercredi l'agence de presse saoudienne. À 18h45 heure locale, 15h45 GMT, un homme s'est arrêté en voiture devant le bâtiment du consulat avant de descendre de la voiture avec une arme à la main, a indiqué l'agence de presse SPA, citant un porte-parole de la police. Les forces de sécurité ont réagi. Suite à un échange de tirs, l'assaillant a été tué. Un agent de la sécurité privée du consulat, un ressortissant népalais, est également mort des suites de ses blessures. L'attaque s'est produite à un moment où l'Arabie saoudite accueille quelque 1,8 million de musulmans pour le pèlerinage annuel du Hajj dans la ville sainte de la Mecque, à environ 70 km de Jeddah. Le consulat américain dans la ville côtière de Jeddah, sur la mer Rouge, a déjà fait l'objet d'attaques dans le passé, notamment le 4 juillet 2016. Un individu s'est fait exploser le jour de la commémoration de l'indépendance des États-Unis. Une autre attaque a eu lieu en décembre 2004, faisant 5 morts. Des dizaines de soldats de réserve de l'armée de l'air israélienne ont annoncé mercredi 28 juin qu'ils quitteront leur service si le cabinet sioniste fait avancer le plan controversé de réforme judiciaire. 110 anciens soldats de l'armée de l'air israélienne ont signé une lettre avertissant que si les amendements aux lois judiciaires ou tout autre projet lié à cette question sont approuvés par le Parlement de ce régime, les forces de réserve cesseront de servir, a écrit le journal Al Arabiya Al Jadid, citant les médias israéliens. Peu après son entrée en fonction, le cabinet israélien dirigé par Benjamin Netanyahu a présenté le 4 janvier de cette année un plan de réforme du système judiciaire qui a suscité une vague de protestations dans les territoires palestiniens occupés d'Israël. Jugé depuis des années pour corruption, fraude et abus de confiance, le premier ministre israélien entend clore ses dossiers par le biais de ce qu'il appelle « réforme judiciaire ». À la suite des tentatives du cabinet du régime sioniste de mettre en œuvre des réformes judiciaires, les territoires palestiniens occupés, en particulier ces villes importantes telles que Tel Aviv et Haïfa, sont confrontés à une série de manifestations qui durent depuis 25 semaines consécutives. Le plan que le cabinet de Netanyahou tente à faire adopter réduirait les pouvoirs du système judiciaire au profit du pouvoir exécutif et législatif. De très nombreuses villes d'Île-de-France, mais également de provinces, ont été le théâtre dans la nuit de mercredi à jeudi de vives violences dans les quartiers populaires après le décès du jeune Naël, tué par un tir policier à Nanterre. Le phénomène de contagion est très largement entamé et le mouvement de révolte parti du département des Hauts-de-Seine s'est très rapidement répandu à travers le pays. Selon un bilan encore provisoire de la nuit, les forces de l'ordre ont arrêté 150 personnes dans toute la France. Le policier à l'origine du tir qui a tué Naël est toujours en garde à vue ce jeudi matin. L'utilisation de la force létale par des policiers contre l'adolescent d'origine nord-africaine alimentait une perception profondément enracinée de la brutalité policière dans les banlieues ethniquement diverses des plus grandes villes de France. À Nanterre, où Naël a été tué, la situation est restée relativement calme jusqu'à 23 heures. Des manifestants ont tiré des feux d'artifice sur la police et incendié des voitures dans la banlieue ouvrière parisienne de Nanterre dans une deuxième nuit de troubles après la mort par balle de ce garçon de 17 ans lors d'un contrôle routier. Peu avant minuit, une traînée de véhicules renversés a brûlé alors que des feux d'artifice pétillé sur les cordons de police de l'avenue Pablo Picasso à Nanterre. La police a affronté des manifestants dans la ville de Lille, dans le nord, et à Toulouse, dans le nord-ouest, et des troubles ont également eu lieu à Amiens, Dijon et dans le département administratif de l'Essonne, au sud de la capitale française, a déclaré un porte-parole de la police. Les médias français ont signalé des incidents dans de nombreux autres endroits de la région parisienne. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de feux d'artifice dirigés vers la mairie de Montreuil, à l'est de Paris. De nombreux incidents ont eu lieu dans des communes des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, avec des tirs de fusées d'artifice nourris, des véhicules ainsi que des poubelles incendiées. Le gouvernement malien va prendre toutes les dispositions pour que le retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, se réalise de façon ordonnée et sécurisée dans le délai le plus court possible, a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Selon une note publiée mercredi par son bureau de l'information et de la presse, M. Diop s'exprimait mardi lors d'une rencontre d'échange et d'information avec le groupe des ambassadeurs africains et les représentants des organisations africaines autour de la question du retrait de la MINUSMA du Mali. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Occident impliqué dans l'attaque chimique à Sardasht. La cérémonie de commémoration des victimes de l'attaque chimique contre la ville de Sardasht dans le nord-ouest de l'Iran par le régime de Saddam Hussein s'est tenue ce mercredi 27 juin au Centre d'études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères, où le message du chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian a été lu. Dans ce message, à l'occasion du 36e anniversaire du bombardement chimique de Sardasht, il a rendu hommage à la dignité de tous les martyrs des armes chimiques du pays et a honoré leur sacrifice. Il a demandé au Dieu Tout-Puissant le prompt rétablissement de tous les mutilés de guerre victimes d'armes chimiques, notamment les femmes. L'histoire de la défense sacrée regorge des pages d'or de la défense héroïque et de la résistance victorieuse de la nation iranienne contre l'agression, ainsi que des séquelles et des blessures laissées par les atrocités et la lâcheté de l'ennemi, parmi lesquelles les blessures et les souffrances causées par les armes chimiques sont les plus douloureuses et nous rappellent un crime que la conscience humaine éveillée n'oubliera jamais. Peut-on lire dans ce message? Il existe des preuves valables et indéniables de la large participation et implication de certains pays occidentaux, en particulier l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et les États-Unis, dans la perpétration de ces crimes en équipant le régime de Saddam Hussein d'armes chimiques et en l'aidant à les utiliser contre le peuple iranien. À titre d'exemple, les installations de production d'armes chimiques ont été construites à Samara et Fallujah en Irak avec la participation du ministère allemand de la Défense. Elles sont passées à la phase de production avec des cargaisons chimiques délivrées par les États-Unis et les armes chimiques produites ont été utilisées par des armes de combat françaises contre des citoyens iraniens, souligne-t-il. Selon le ministre, l'une des dimensions les moins visibles du crime d'utilisation d'armes chimiques contre l'Iran était son emploi à grande échelle contre des villes et des civils, en particulier des femmes sans défense et des enfants innocents, qui s'est soldé par la mort à martyr de milliers de personnes. Des dizaines de milliers d'autres ont été blessés, dont beaucoup souffrent encore jour et nuit à cause de ces effets. L'ironie amère est que les prétendus défenseurs des droits de l'homme se sont fait passer pour soutenir les femmes et les filles iraniennes en 2022, et ce, sous la forme d'une guerre combinée vicieuse contre l'Iran. Ils ont eu recours à des mensonges désuets comme ceux utilisés lors du bombardement chimique de Sardasht et de ses villages avoisinants. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la mémoire des milliers de victimes de l'attaque chimique de Sardasht. Et 36 ans après cette catastrophe, les poursuites judiciaires internationales du gouvernement iranien pour la réhabilitation des droits bafoués des martyrs et des survivants, la condamnation et la punition des auteurs et des sponsors de ce crime n'ont abouti à aucun résultat en raison des tergiversations évidentes des gouvernements occidentaux, indique Amir Abdollahian dans son message. Néanmoins, Poursuit-il, je voudrais souligner et clarifier que le gouvernement de la République islamique n'oubliera pas et ne pardonnera pas les auteurs de ces crimes et leurs complices. Ces crimes ont été commis en violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et du protocole de Genève de 1925 sur l'interdiction des gaz toxiques et engagent la responsabilité internationale et tous leurs agents et auteurs doivent être tenus responsables de leurs actes inhumains. Les obstacles au processus de poursuite des droits des victimes d'attaques chimiques ne pourront pas réduire la responsabilité internationale des gouvernements concernés et ne saperont pas notre détermination à défendre nos droits. L'embargo sur les médicaments dont ont besoin les survivants de l'attaque chimique est l'une des répercussions des crimes des pays occidentaux. Ces sanctions sont l'un des exemples flagrants des crimes contre l'humanité. Cependant, malgré toutes les restrictions causées par les sanctions, les efforts du gouvernement pour fournir des services médicaux aux survivants du bombardement chimique se sont poursuivis sérieusement. En plus, en coopération avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Téhéran cherche à mettre à la disposition des autres pays les expériences uniques et précieuses de la communauté médicale iranienne dans le traitement des personnes blessées par des armes chimiques. À cet égard, l'Iran accueillera en octobre, pour la 11e fois, la réunion internationale sur les dimensions médicales de l'assistance et de la protection contre l'utilisation d'armes chimiques. En tant que plus grande victime de l'utilisation des armes chimiques à l'époque contemporaine, la République islamique d'Iran condamne l'emploi d'armes chimiques partout dans le monde, par quiconque et en toutes circonstances. Et renouvelle une fois de plus son attachement à la création d'un monde exempt d'armes chimiques. Aujourd'hui, la réalisation complète des objectifs de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques dépend dans une large mesure de la destruction complète des armes chimiques américaines et de l'adhésion immédiate et inconditionnelle du régime sioniste à cette convention, ainsi que de son application effective, intégrale et non discriminatoire, en particulier dans le domaine du développement de la coopération internationale en matière d'utilisation de produits chimiques à des fins pacifiques, a fait remarquer le patron de la diplomatie iranienne.